Je propose d'ouvrir la Bible dans le livre de l'Exode au chapitre 20. J'aimerais ce matin placer devant vous une pensée afin que dans les confusions qui peuvent exister, on soit au clair, que nos fondations soient solides par rapport à la vision de Dieu, dans la façon, dans ce que Dieu veut faire dans votre vie, dans la mienne. On pourra peut-être lire à haute voix ensemble dans Exode 20, les 17 premiers versets. On y va? Alors, partir verset premier. Hein. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et puis, une deuxième lecture, ça se trouve dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 8. 1 Samuel, chapitre 8, pour vous situer la situation. Il n'y avait pas encore de roi en Israël à cette époque-là, et c'était donc des juges que Dieu envoyait périodiquement pour ramener le peuple à lui, et le dernier juge en date était donc à ce moment-là Samuel. Et Dieu parle, et le peuple, alors 1 Samuel 8, verset 1er. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Voyez qu'en quoi on peut avoir des parents consacrés et des enfants inverses. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il dit, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer des terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et il donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et vous servirez et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville, en attendant donc la suite. J'aimerais placer une pensée qu'on n'est pas très habitué à comprendre, mais j'aimerais dire qu'il y a une philosophie de la marche chrétienne qui est très 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 peu comprise, et il y a un choix dans votre vie, dans la mienne, par rapport à ce que Dieu veut faire, et ce choix sera toujours là jusqu'à la fin de notre vie. Dans le premier récit que nous avons fait du décalogue, on voit Dieu qui sort Israël de la captivité d'Égypte. La Bible dit « à main forte, à bras étendus ». Mais l'objectif n'était pas seulement de sortir Israël de la captivité d'Égypte. L'objectif, c'était pas seulement d'honorer les promesses que Dieu avait faites à Abraham, en lui disant « tes descendants seront captifs pendant 400 ans, mais quand l'iniquité des Amoréens aura atteint son comble, à ce moment-là, ils pourront revenir ». L'objectif de Dieu n'était pas seulement ça, l'accomplissement des promesses, le territoire d'Israël, donc le territoire de Canaan, etc., la délivrance également, la loyauté de Dieu qui avait fait alliance avec Abraham, mais il y avait plus que ça. Et ça, il faut le comprendre. C'est que dans la pensée de Dieu, dans la stratégie de Dieu, il y avait une vocation en tant que peuple. Ce n'était pas seulement les descendants d'Abraham, fils, petit-fils, etc. Mais il y avait également la vision d'un peuple. La notion d'Israël n'est pas comme chez nous, en tant que chrétiens, la vision, le salut individuel. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, Dieu a voulu prendre une nation, un peuple, pas un individu, un peuple, la race d'Abraham, pour en faire non pas un témoignage individuel, mais un témoignage de peuple face aux autres peuples, un témoignage national face à d'autres nations. Vous devez comprendre ça, c'est extrêmement important. La vocation d'Israël, dès le départ, dès que Dieu a fait alliance, et même avant, mais dans la prédestination, Israël était destiné à être un témoignage national en tant que nation par rapport à toutes les nations de la terre. Et Dieu dira à Abraham, tes descendants seront en bénédiction à toutes les nations de la terre. Ça, c'est très très important. Donc Dieu sépare Israël, les descendants, il les sort d'Égypte, à leur rencontre avec lui à Horeb, donc au mont Sinaï. Il fait alliance avec eux, dans le décalogue que nous venons de lire, tu n'auras pas d'autre Dieu. Il déclare que ce peuple lui appartient, que c'est un peuple de sacrificateurs, il lui appartient, il est à part. Et au sein de ce peuple, simplement, Dieu va prendre la tribu des Lévites pour faire la prêtrise, non pas pour remplacer Dieu face aux gens, mais pour le service. La nation avait une vocation nationale, mais au sein de cette nation, il y avait une répartition des tâches, et les Lévites étaient chargés, avec les sacrificateurs, de s'occuper, parce qu'ils étaient à plein temps, ils n'avaient pas de propriété en Israël. Ils étaient donc chargés de présenter, d'aider le peuple juif qui venait apporter les sacrifices. Donc, ils étaient chargés d'exercer le côté sacrificateur, mais pas pour remplacer. C'était un exécutif de relation, mais ce n'était pas pour remplacer la vocation d'Israël en tant que nation. Donc, les Lévites ne pouvaient jamais dire qu'ils étaient le peuple de sacrificateurs face à Israël. Non, c'était Israël qui était le peuple choisi de Dieu, avec une vocation internationale, mondiale, et au sein de cette nation, il y avait donc les Lévites et les sacrificateurs qui devaient faire cette chose. Alors, vous devez comprendre que la force de cela, quel était l'avantage que le peuple d'Israël pouvait avoir, à part la bénédiction de Dieu, l'aide de Dieu, les miracles de Dieu, mais aussi une drôle de formation quand vous pensez tout ce qu'ils ont bavé, tout ce qu'ils ont bavé dans le désert, hein, je crois que j'en ai parlé l'autre dimanche. Il faut comprendre que quand vous êtes appelé par Dieu, sinon on ne peut pas expliquer les choses. Nous sommes habitués, en tant que chrétiens, charismatiques, pentecôtistes, nous connaissons la notion de l'autorité, nous connaissons la notion de la puissance, nous connaissons la notion des charismes, nous connaissons la notion de la guérison, du baptême du Saint-Esprit, de chasser les démons, etc., etc., etc. Ça, nous connaissons et ça fait partie du message « Allez prêcher, guérissez les malades, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement et vous donnez gratuitement ». Ça, c'est un volet qui est réel. Mais on voit quand même, si vous avez gardé les yeux ouverts, si vous ne laissez pas embarquer par n'importe quel slogan tout fait, on voit quand même dans l'histoire de l'Église, dans la vie des chrétiens, on voit souvent que les chrétiens les plus engagés ont souvent le plus d'ennuis. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Ce n'est pas une fois de temps en temps. Le malheur atteint souvent le juste. Et puis, le corollaire, et l'Éternel leur délivre toujours. Donc, il faut bien savoir que plus... Là, je rappelle quelque chose que je voulais exprimer l'autre jour. Que plus votre vie, plus... peut faire peur peut-être, mais plus vous avez le désir de marcher avec Dieu, plus vous donnez priorité à l'au-delà, affectionnez-vous aux choses d'en haut, plus vous acceptez de vous détacher des réalités de la terre pour donner priorité à la préparation des choses d'en haut, celles qui ne sont pas passagères. Les choses de cette vie sont passagères, mais les réalités spirituelles sont éternelles. Donc, dans la mesure où vous acceptez, pour que la Bible appelle d'une autre façon le critère de vainqueur, qu'est-ce que c'est qu'un vainqueur? Un vainqueur, c'est pas... un vainqueur, est-ce que ça peut être, on peut exercer un acte de foi quelque part, avoir des résultats, sans forcément être vainqueur sur un autre terrain de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un vainqueur? Dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, qu'est-ce que c'est qu'un vainqueur? C'est simple. C'est quelqu'un qui a réussi, par son attachement au Seigneur, à accepter, au travers des circonstances de sa vie, que Dieu dirige, au travers des sécateurs de Dieu, au travers du désert de la formation que Israël a connue pendant 40 ans et que les chrétiens engagés immanquablement vont rencontrer, c'est-à-dire quoi? Un travail de formation, de brisement, de souffrance. La Bible appelle ça la communion aux souffrances de Christ. Et le vainqueur, c'est celui qui aura accepté cette seigneurie de Christ au travers du chemin des circonstances de la vie, pour arriver à cette réalité que lui, il ne travaille plus pour lui. Il travaille pour le Seigneur et pour son prochain. Ce n'est que dans la mesure où tu as compris que ta vie chrétienne n'est faite que pour servir ton prochain que tu es de la race des vainqueurs. Aussi longtemps que tu utiliseras les choses de Dieu pour toi, toi, ton objectif, c'est Dieu, c'est ton prochain, et ta foi fait confiance à Dieu pour que lui s'occupe de toi. Père, Jésus dira, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et là, vous pouvez comprendre l'état actuel de l'Église de Jésus-Christ, où, même au travers de certaines théologies, les gens sont centrés sur eux, que ce soit secteur matérialiste, que ce soit secteur égocentrique, que ce soit même sur le problème du rejet, de tous les problèmes des cures, centrés sur soi. Alors que le vrai vainqueur, lui, il a pris, il a accepté, parce que c'est surtout là que ça joue, il a accepté de renoncer à lui-même, de se charger de sa croix chaque jour, c'est-à-dire que chaque jour, c'est un style de vie, et de suivre Jésus. Comme lui a marché, je suis appelé à marcher. C'est ça, le vainqueur. Il n'y a pas d'autre recette. Hein. Mais alors, on va aller plus loin, mais au niveau de cette notion de l'Alliance, là je viens de parler, il y a Israël a reçu, donc la vocation d'Israël, c'était aussi d'être en bénédiction à toutes les nations de la terre. Israël, c'était pas, on en a déjà parlé, c'était pas le chouchou, enfant gâté, comme parfois les chrétiens, oui, Dieu m'aime, il n'y aura pas de problème, j'aurai pas de bobo, c'est pas vrai. Hein. Je voudrais tout de suite vous dire, plus vous aurez envie de servir Dieu, plus vous aurez des problèmes. Mais dans toutes ces choses, nous apprenons, au travers de la souffrance, au travers de la résistance, au travers de la persévérance, au travers de la victoire, au travers d'une communion de plus en plus intense avec Dieu, nous apprenons à toujours mieux connaître le Seigneur. Parce que cette réalité dans laquelle nous avons été transportés par notre nouvelle naissance doit progressivement, jour après jour, ça prend des années, nous introduire progressivement dans une intimité profonde avec Dieu lui-même pour que sa réalité soit en nous et qu'il puisse couler en nous. Et ça, ça fait des brisements, ça fait des souffrances. Apprends à reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies. Est-ce que vous réalisez ce que la Bible dit ? Si demain j'ai un problème, bon, je sors, je garde mal ma voiture, paf, un PV. Je dis, c'est complètement idiot de prendre un PV, j'en ai marre, alors que hein, j'étais là pour 5 minutes, etc. Je veux dire, je peux râler, les États, le truc, la mairie, le service municipal, etc. Ou je peux dire, mais Dieu a permis ça. Pourquoi Dieu a-t-il permis un PV ? Allez, réfléchis. Peut-être parce que j'étais en tort, oui. Mais ça peut être pour autre chose. Pourquoi ? Parce qu'au travers de tous ces petits détails, de votre vie, de la mienne, paire d'argent, un voleur qui vous pique dans votre poche. Un jour, là, j'étais à Rome avec... ils m'ont voulu faire visiter Rome, là, quand j'étais allé à Naples, il y a quelques années en arrière. Et en montant dans le bus à Rome, vous savez, il y a des milliers de pèlerins, hein. Alors, vous avez des gens qui embrassent les statues, etc. Mais ça n'empêche qu'un pickpocket m'a fauché dans le bus, ma carte de visa, etc. Comme quoi, on peut être dans la ville sainte. Et une drôle d'arnaque. Alors, moi, sur le coup, avoir tous les paperasses, téléphones, vous savez, la lenteur italienne, je vous garantis que la police italienne, ils ne sont pas nerveux. Hein. Alors, tous ces trucs-là, etc. Pourquoi ça ? Pourquoi ? Est-ce que j'avais fait quelque chose de mal ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il faut que j'apprenne que vivant dans un monde de péché, Dieu permettra que les épines des roses, de temps en temps, me griffent pour me garder ou me rendre libre intérieurement de tout ce qui voudrait me lier aux choses de la terre. Donc les circonstances qui vous arrivent dans le domaine financier, les circonstances qui vous arrivent dans le domaine physique, les circonstances qui vous arrivent dans le domaine matériel, les circonstances qui vous arrivent dans le domaine spirituel, familial ou autre, peuvent avoir une correction, une pédagogie de Dieu pour nous transformer, pour nous amener à sa sainteté, peuvent avoir parfois, si c'est très grave, une sanction de Dieu, mais souvent, si nous sommes sincères, c'est un objectif de formation, de nous amener à sa sainteté, à son caractère, parce que Dieu veut nous garder libres par rapport aux choses de la terre. Si vous acceptez cette pensée, vous allez y apporter, mais si chaque fois que vous arrivez un problème, vous allez vous culpabiliser, vous allez finir dans la dépression. Parce qu'il y a des raisons, il y a des choses parfois qui nous touchent, il n'y a aucune raison compréhensible. Regardez les compagnons de Job, soir le frère là, avait parlé, les compagnons de Job, ils voulaient absolument que Job soit coupable. Job n'était pas coupable, comme ça nous était rappelé, il se défendait par rapport aux gens. Par contre, devant Dieu, il avait besoin de changer dans son caractère. Ça, c'est ce que Dieu permet. En vous, en moi, dans les circonstances de la vie, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, parce qu'au travers de ces épines, souffrances, toutes sortes, silence parfois, le désert parfois, eh ben Dieu nous conduit à être transformés à sa sainteté, nous rend participants à sa sainteté, à sa nature sainte. Jésus a été élevé à la perfection par les choses qu'il a souffertes, et ça nous arrive aussi. La difficulté, c'est de savoir quand il y a le malin qui est en action, quand c'est Dieu, quand c'est notre foi dans le repos de Dieu, donc c'est notre communion avec le Seigneur qui doit, jour après jour, et si c'est le malin, Dieu est capable de nous le montrer. Seulement, il ne faut pas culpabiliser, chercher et faire une culpabilisation maladive qui finalement met les gens sous un joug. Alors, Israël avait donc, au point de vue national, je viens de parler un peu de la vocation individuelle, mais Israël avait une vocation nationale et une vocation mondiale. Résultat, en plus de ça, Moïse le dira plus tard, quelle est la nation qui a une loi aussi belle et parfaite que la vôtre? Non seulement Dieu avait donné une vocation à Israël, mais en plus de ça, il lui a donné une loi nationale, des lois qu'aucune nation de cette époque-là n'avait. Il y avait le code d'Hammurabi qui existait en Babylonie, mais qui était déjà pas mal, mais il n'y avait aucune loi, aucun code de loi comparable aux lois que Dieu avait données à Israël. En un mot, les lois d'Israël, les lois données par Dieu, dépassaient 100 fois à l'époque, dépassaient 100 fois les lois des autres peuples. Et Moïse dira, mais quel est le peuple qui a une loi aussi belle que celle que Dieu vous a donnée? Donc, vocation internationale, vocation nationale, internationale, pour les peuples, vocation d'être non pas des chouchous, mais un canal de bénédiction tout en étant aimés, leur vocation devait servir les autres, une loi qui était là pour les protéger. Alors maintenant, on arrive au deuxième point, la loi belle. Quel était le but de la loi? Et là, il y a souvent une confusion. Venons de lire, écoute Israël, tu honores ton père, ta mère, etc. Et pour beaucoup, la grâce de Dieu, c'est fini, tout ça, c'est pas la peine, etc. Non, les lois de Dieu demeurent. Jésus a dit que pas une lettre de la loi ne sera supprimée. Et vous savez, si sous prétexte de la grâce, j'en vais tout promener, j'y laisserai ma peau. Mais au contraire, quel est l'objectif? Et là, il est important que chacun d'entre nous, nous comprenons. Je vais prendre un exemple humain. Une loi. Prenez un code de la route. Prenez un code de la route, vous prenez votre voiture. Vous avez un code de la route avec des panneaux vous apprenez à respecter les panneaux de signalisation, vous roulez à droite, vous respectez le sens giratoire, etc. La loi ou le code de la route et les lois nationales, le code de loi de la France, sont des ordonnances, sont des commandements qui sont donnés pour le peuple, qui sont extérieurs à vous, qui sont obligés, auxquels vous êtes obligés de vous soumettre pour vous protéger, pour protéger les autres. En un mot, la loi est une contrainte extérieure à vous. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. C'est extérieur à vous. C'est la loi qui régit une nation. Hein? Elle change. Par exemple, en France, eh bien, aujourd'hui, l'homosexualité, toutes ces choses qui étaient dans la loi religieuse d'Israël étaient condamnées, lapidées. Aujourd'hui, vous pouvez vivre ensemble, vous avez le pacte, vous avez toutes sortes de... Les lois humaines changent. Les lois de Dieu ne changent pas. La loi de Dieu était donnée, donc, l'apôtre Paul dira, cette loi était donnée comme un pédagogue, c'est-à-dire comme une direction, une protection, une haie qui vous environne, qui environnait la nation d'Israël. Et écoutez bien cela, qui l'obligeait à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Honore ton père, ta mère, etc. Ça va plus loin. J'ai pris l'exemple du code de la route. Le code de la route peut vous obliger à rouler à 90, mais au fond de vous, vous avez une voiture qu'on vous a prêtée qui fait du 180 très facile. Au fond de vous, vous avez envie d'appuyer sur l'accélérateur. La loi extérieure ne change pas cette envie. La loi extérieure vous empêche d'aller au fond de vos impulsions, d'aller à vos impulsions. C'est un carcan extérieur, c'est une protection extérieure, mais elle ne vous change pas à l'intérieur. Comprenez ça? Eh bien, c'est la même chose pour la loi de Dieu. La loi que Dieu a donnée à Israël, c'était un garde-fou extérieur, des commandements extérieurs pour éviter l'abus. C'est pour cette raison, quand après le déluge, Dieu donne la possibilité à l'être humain de mettre à mort un autre être humain, c'est la première fois, si par l'homme le sang est versé, par l'homme le sang sera redemandé après la sortie de l'arche, ça veut dire que Dieu a donné le pouvoir aux hommes de condamner à mort d'autres hommes. La première fois dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours cette nécessité de protéger la société. Mais ce qui est important, c'est que cette loi-là, extérieure, belle, parfaite, Jésus dira, il n'y a rien, elle reste tout le temps. Eh bien, cette loi-là n'a pas accompli le plan de Dieu. La preuve, c'est que les Hébreux, les Israélites, quand ils étaient poussés par leur pulsion intérieure, par leur tentation intérieure, par leur nature intérieure, ont piétiné la loi, truqué la loi, comme aujourd'hui la vie française est reconnue comme un truqueur de loi, comme un truqueur des règlements, comme un gars qui cherche toujours à échapper au règlement. C'est en lui. C'est en lui. C'est la nature de péché que nous avons hérité de nos pères. Et la loi, extérieurement, ne règle pas la nature de péché. Elle bloque notre nature de péché. Elle nous oblige à freiner notre nature de péché. Elle nous sanctionne par rapport à des actions que notre nature de péché peut faire. Mais elle ne nous change pas. Et Paul dira, ça va même plus loin. C'est que chaque fois que la loi dira « tu ne feras pas ça », au fond de nous, on a envie de le faire. Je ne sais pas si vous réalisez, hein, on a envie de le faire. Plus vous interdisez quelque chose à quelqu'un, plus à un moment donné, il a envie de le faire. C'est dans la nature du péché que nous avons. Ceci étant clair, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a maintenant, on a ce phénomène arrive pour Israël. On arrive au temps des juges. Dieu avait établi une nation, avait établi une prêtrise, mais c'était le peuple tout entier qui était sacrificateur. Et chacun devait, dans la soumission à la loi, vivre la bénédiction de Dieu pour lui-même, pour son foyer, pour sa famille, pour sa tribu et pour la nation qui devait être en bénédiction à toutes les autres nations de la terre. Et Dieu avait promis une expansion qu'au temps de Salomon, l'État d'Israël va avoir. Hein? Et voilà qu'avant cela, eh bien, la nature de péché, comme je veux dire, commence. Et vous avez le peuple qui rouscaille et qui commence à se comparer aux autres nations. Et au lieu, et vous devez comprendre le défi qui est lancé, quand les Israélites vont trouver Samuel et lui disent « Mais donne-nous un roi comme les autres nations », ça voulait dire quoi? Et c'est ça qui a mis en colère Samuel. Ça veut dire que leur libre arbitre, leur libre volonté de marcher avec Dieu, parce qu'ils avaient la loi, ils avaient les lois, ils savaient ce qu'ils pouvaient faire individuellement, familialement, ils avaient dans leurs mains tout ce qu'il fallait pour servir Dieu. Il suffisait qu'ils obéissent à la loi. Or, pour eux, ça ne suffit plus. Puis-je dire, la Bible ne suffit plus. Il nous faut un chef. Il nous faut un chef. Un homme, on marche derrière, un homme qu'on va suivre. Je peux transposer ça? Il nous faut un curé. Il nous faut un curé. Et leur libre arbitre, leur vocation de sacrificateur, leur rôle mondial, dépendait aussi de leur acceptation individuelle de se soumettre à la loi de Dieu, qui Boël, tranquille, aux structures que Dieu avait établies. Dieu n'avait pas établi de roi. Dieu avait établi des prêtres pour le secteur, mais Dieu avait établi des juges, des princes, des tribus, donc une organisation sociale, mais spirituellement, chacun était capable, à la fois individuellement, familialement, tribalement et nationalement, avait tout ce qu'il fallait pour que dans sa conscience et dans son obéissance à la loi de Dieu, il puisse réussir dans la vie. Mais le problème est devenu tellement fort parce qu'en eux, était le problème. Alors, il donne nous un chef. Au lieu de prendre du temps devant Dieu, au lieu d'obéir, ils avaient envie de choses nouvelles, au lieu de rester dans cette dépendance individuelle face à Dieu, selon les normes que Dieu a dit, ces gens-là ont été prêts à se mettre sous la domination d'un être humain parce que ça leur facilitait leur marche. Ils n'avaient plus à se casser la tête. Un roi leur disait ce qu'il fallait faire. Un roi leur disait comment il fallait faire. Un roi leur disait, ils marchaient devant. Ils n'avaient qu'à le suivre. Puis-je dire un peu des moutons derrière le roi? Qu'à le suivre. Solution de facilité. Mais leur libre relation avec Dieu, individuelle, ils l'ont mis de côté. Ils avaient besoin d'un homme, ils avaient besoin d'une personne qui devenait intermédiaire entre Dieu et eux. Et ça a mis Samuel en colère. parce que lui exerçait sa fonction de prophète. Donc, de la part de Dieu, il pouvait parler des choses spirituelles que quelqu'un avait besoin. Mais Samuel ne touchait pas aux structures de Dieu qui voulait que chaque famille, chaque chef de tribu, chaque tribu traitée, marche avec son Dieu. Rappelez-vous tous les commandements que Dieu donnait à Israël dans sa famille quand tu déplaces, inculques à tes enfants, etc., etc. Donc là, c'est comme pour les musulmans, la foi juive est terriblement incarnée dans la sociologie profonde de la nation. On ne peut pas séparer le culte d'Israël avec la vie journalière. En Israël, c'est impossible. C'est un. Et voilà qu'eux veulent, comme les autres nations, un bonhomme qu'on va suivre. Alors, c'est le grand défi. Et puis, il y a quand même quelque chose. Il y a l'échec de leur propre vie parce qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas arrivés, eux, par rapport à leur pulsion intérieure, leur nature intérieure. Ils veulent comme les nations. Ils trouvent que finalement, les nations, c'est peut-être pas mal. En un mot, la sagesse des nations, maintenant le roi, eh ben, prend la place de la sagesse de Dieu qui avait voulu un royaume de sacrificateurs. Israël était un royaume de sacrificateurs. Dieu avait suivi cette évolution, il le savait, vous savez que Dieu connaît d'avance, donc, mais Dieu avait suivi cette évolution. Et Dieu avait dit dans Jérémie, plus tard, Dieu dira qu'il fera une alliance nouvelle. Non pas comme l'ancienne, qui n'avait pas été respectée, qui n'avait pas apporté son fruit, mais une alliance nouvelle. Et Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leurs pensées. Et là, vous pouvez comprendre la différence de la nouvelle alliance avec l'ancienne. L'ancienne alliance, c'était la loi extérieure, les commandements, pour vivre en société, obligé, sinon il y avait la sanction, le gendarme, le policier, le prêtre, il y avait la sanction. La nouvelle alliance avec Dieu n'est plus basée sur une obligation extérieure avec sanction extérieure, obligé de se plier à une vérité ou à une obligation de normes extérieures, la nouvelle alliance, c'est ces lois extérieures qui vont être inscrites au fond de nous et qui vont être intériorisées pour devenir esprit et vie au fond de nous. En un mot, honore ton père et ta mère ne sera plus une obligation légaliste extérieure, parce que si je n'honore pas mon père et ma mère, je ne vais pas aller au ciel, caricature. Maintenant, la loi inscrite dans mon cœur, la loi inscrite dans mes pensées, la nouvelle alliance, c'est que maintenant, j'aime honorer mon père. J'aime honorer ma mère. C'est le fruit de la nouvelle naissance, c'est le fruit de la nouvelle alliance. Ce n'est pas un carcan extérieur où il y a une hypocrisie par rapport à l'intérieur parfois. Le carcan extérieur ou la loi extérieure est un pédagogue, un moyen qui me permet de prendre conscience que finalement en moi, il n'y habite rien de bon, que face à la loi qui est juste, moi, je suis injuste. Donc qui me délivrera de ce corps de mort, dira Paul. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, par l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc c'est l'irruption de la vie chrétienne, l'irruption de la vie du Christ, notre identification dans sa mort, notre identification avec lui dans sa résurrection, notre être intérieur qui renaît, qui passe de la mort à la vie. Christ vivant vient habiter en nous, et à partir de ce moment-là, il y a un processus comme une semence de vie qui va se développer jour après jour. Et si comme pour un pédagogue, quand on est petit jeune dans la foi, on a encore besoin de réglementation, eh bien progressivement, la chose doit être comprise, c'est que la nouvelle alliance ne me permet pas de vivre n'importe comment, en disant « maintenant je n'ai plus de loi sur ma vie, donc je peux faire ce que je veux ». Non. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais ce que tu fais va révéler si oui ou non tu es né de nouveau. Vous comprenez? Tu peux tuer. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne cherche pas à dire que tu es chrétien. Non, tu es perdu encore dans tes péchés. Parce que si tu es né de nouveau, tu ne peux plus pratiquer le péché. C'est comme tu peux peut-être encore, avec cette pulsion de la vieille nature qui est en toi, cette pulsion, tu peux encore parfois déraper, tu peux encore avoir des moments de tentation, tu peux avoir des moments de chute, c'est vrai, mais tu ne pratiques plus. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est là qu'on reconnaît la réalité du véritable chrétien, c'est qu'il ne pêche plus Et s'il pêche, il a un avocat auprès du Père, c'est-à-dire il confesse son péché. Quelqu'un qui fuit, qui ne reconnaît jamais. Parce que si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit au fond de vous vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Le drame, si vous voulez, dans la marche chrétienne, c'est quand quelqu'un devient insensible à la culpabilité, quand quelqu'un devient insensible à la notion de péché, là c'est tragique. Ça montre que l'Esprit de Dieu l'a abandonné. Ça c'est dangereux. On ne peut pas dire, nous, ça ne nous appartient pas, je ne pense pas, sauf si Dieu vous demande réellement, mais c'est très très difficile. L'apôtre Jean parle d'un péché qui conduit à la mort, je ne vous dis pas de prier pour ce péché-là. Donc il y a des moments où, avec Dieu, il y a des barrières. C'est fini. Mais je reviens donc à la nouvelle alliance. Ça, et nous vivons cette nouvelle alliance. Et notre rôle à nous, notre marche à nous, dans cette nouvelle alliance interdite, cette nouvelle alliance, c'est le Christ finalement. Quel est l'amour, la nature du Christ? Dieu est amour. Donc la relation avec Dieu au fond de nous-mêmes qui se développe nous permet alors de vivre la loi de Dieu. Non plus comme des ordonnances inscrites sur des pierres, mais sur les tables de chair de notre cœur, de notre conscience. C'est en nous. Et ça prend du temps, comme un bébé qui apprend à marcher. Ça prend du temps. Et c'est ainsi que par l'action de l'Esprit de Dieu, au travers des circonstances de la vie que Dieu va utiliser parfois pour nous lessiver, pour nous nettoyer, pour nous, parfois nous briser, dans nos, parfois nous ramener, eh bien, dans toutes ces choses, eh bien, il y a un travail de Dieu qui se fait et pour nous amener à la stature de Christ, dans la seigneurie de Christ. Et je rappelle que le malin dans toutes ces choses-là rentre dans la pédagogie de Dieu, puisque Dieu, on a vu avec Job, Dieu ouvre la haie, mais à un moment donné aussi, Dieu la ferme. Il ne faut jamais oublier que si Dieu a ouvert la haie pour Job, d'abord les enfants, ensuite les biens matériels, puis ensuite ça a été la santé, hein, là, Job, il a tout perdu. Dieu avait permis à Satan, il dit, oui, vas-y, mais tu ne touches pas sa vie. Mais Dieu a élargi progressivement la haie ouverte. Il peut arriver dans votre vie comme dans la mienne, qu'à un moment donné, par toutes sortes de défis, appel au témoignage devant le monde invisible, et toutes sortes de raisons, eh bien, Dieu peut ouvrir la haie au malin, lui permettre une certaine action, contrôler. Mais à un moment donné, Dieu peut aussi, et fermera aussi la haie. Il a le pouvoir d'ouvrir, il a le pouvoir de fermer, il est le Seigneur. Ce n'est pas le diable qui est le Seigneur, c'est Dieu. Hein? Comprenez, il faut absolument s'en sortir de tous les trucs qu'on nous met dans la tête, qui enlèvent la confiance en Dieu. Hein? Et donc, dans cette ouverture, nous pouvons être amenés au combat spirituel, nous pouvons être amenés à la sanctification, nous pouvons aller à la confiance, nous pouvons être amenés à la mort à nous-mêmes, nous pouvons être amenés dans l'acte de foi et d'autorité. Toutes ces choses font partie de la panoplie chrétienne, mais en toutes ces choses, c'est Dieu que nous voyons, que nous servons et dans l'intimité duquel nous nous développons jour après jour. Alors, termine là maintenant. Nous retrouvons maintenant l'esprit de la grâce. Donc, je vais montrer la loi inscrite dans les cœurs, c'est la grâce. Et je rappelle que la grâce, ce n'est pas seulement un état d'esprit. Souvent, nous pensons que la grâce, approchez-vous du trône de la grâce, sachant que nous serons secourus, trouverons miséricorde et que nous serons secourus dans tous nos besoins. Alors, souvent, dans ma tête aussi, je dis, je m'approche du trône de la grâce, donc Dieu me fera grâce. C'est une vérité, mais elle n'est pas complète. Pas le temps d'insister, mais dans la Bible, le mot grâce ne signifie pas seulement un don unilatéral de Dieu, un état d'esprit de la part de Dieu qui me donne sans que je mérite rien. Mais la grâce, la Bible utilise les mots « les grâces de Dieu ». La grâce ou les grâces de Dieu qui me sont nécessaires dans tous les domaines de ma vie, c'est aussi la puissance de Dieu. Le mot « grâce » et les mots « puissance » sont souvent interchangeables dans les choses de Dieu. Donc, quand je m'approche du trône de la grâce, je trouverai miséricorde, ok, ça c'est l'état d'esprit de la grâce, et je serai secouru dans tous mes besoins, ça c'est la puissance de la grâce. Et la grâce, c'est pas seulement un état d'esprit, la grâce, c'est la communication, ou les grâces de Dieu, c'est la communication des puissances de Dieu qui me sont nécessaires pour tous les jours de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. C'est pour cette raison que la Bible dit « rendez grâce à Dieu pour toutes choses ». pour tout événement, ton pire ennemi. Si tu as compris ça, n'est que permis par Dieu, et que tu comptes sur la grâce de Dieu pour avoir la bonne réaction à cela, tu peux rendre grâce, parce que tu sais que finalement, dans tout ce qui t'arrive, Dieu suit une pédagogie, et parce qu'il t'aime, tu lui fais confiance. Et à un moment donné, Dieu ferme la haie. Parfois c'est long, parfois c'est court, Dieu sait ce qu'il fait, mais le résultat, c'est qu'il nous rend conformes à son Fils. Alors je termine en disant ceci. Les cinq ministères de Éphésiens 5, de Éphésiens 4, 11. Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Et on voit aujourd'hui les gens. Et on est, vous et moi, nous sommes confrontés à un choix. On voit aujourd'hui, parce que les gens n'ont plus la patience, ou les gens n'ont pas le temps, ou les gens n'ont pas envie, ou les gens copient ce qui se fait à droite et à gauche. Les gens, maintenant, veulent des rois. Et la notion de ministère, telle que ça a été conçue dans le plan de Dieu, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, c'était fait pour quoi ? Pour dominer sur les gens ? Pour que les gens marchent derrière eux ? Pour qu'ils soient les super auréolés ? Non. Ils étaient serviteurs pour amener les chrétiens à maturité. En un mot, ces ministères de gouvernement, selon Éphésiens 4, 5, ne devaient pas et ne doivent jamais être des médiateurs entre Dieu et le croyant, mais doivent être comme des poteaux indicateurs permettant aux chrétiens de développer sa propre relation avec Dieu et de trouver sa propre identité en Dieu. Et là, vous pouvez comprendre l'incroyable dérapage dans lequel nous vivons aujourd'hui, où les gens peuvent expérimenter, bénéficier des plus grands ministères, mais quand vous regardez leur vie après, ils n'évoluent pas. Parce que sans même s'en rendre compte, ils placent leur confiance. Ça devient quelque chose de tragique. Ils placent leur confiance dans des hommes, même de Dieu. Et ils tombent sous une malédiction qui dit malheur à l'homme, qui se confie dans l'homme. Mais par contre, si j'ai conscience, et c'est là que vous pouvez dire, par exemple, dans une vie d'église, on peut être au démarrage d'une vie chrétienne, d'une vie d'église. Moi, je me rappelle, au démarrage, on faisait toutes sortes de choses, on fonçait, des pionniers, ministère, pionniers, il fallait ouvrir, il fallait y aller, il n'y avait pas de collaborateurs, il n'y avait rien. On était seul à décider, parfois on ne perdait pas son temps, c'était efficace, c'était tout ce que vous voulez. Ok. Et vous avez des super ministères qui font, c'est leur ministère, et tout le monde travaille pour eux derrière. C'est l'homme ou la femme qui a derrière lui ou derrière elle une équipe au service du ministère. Ça peut être juste, de temps en temps, dans des situations pionnières, dans des situations particulières, parfois, mais ça ne doit pas rester comme ça à la longue. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de suivre un homme. Le but de Dieu, c'est que cette équipe de ministère puisse permettre à l'ensemble des paroissiens, des chrétiens, de trouver leur maturité, leur autonomie. Je vais prendre un exemple. Vous avez des dénominations où le pasteur est l'homme orchestre. Le pasteur dit, le pasteur décide, le pasteur fait, le pasteur prie. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est un héritage de l'Église catholique. Et les gens aiment, c'est rassurant. C'est rassurant, on peut le comprendre. Vous avez quelqu'un qui vous dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut faire. Si vous vous trompez, il vous le signale, il vous protège, il est le berger. C'est rassurant, mais à un moment donné, si vous êtes toujours dépendant du berger, vous n'êtes plus dépendant du souverain berger. Et vous comprenez la chute spirituelle. Et ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, comme les Hébreux, les Israélites ne devaient respecter Aaron, devaient respecter les Lévites. Il n'y a pas rupture, il n'y a pas rejet, il n'y a pas insoumission, il y a complémentarité. Et une église, et je dis par exemple, une église adulte, c'est pas une église où le pasteur fait tout, où le pasteur est le chef, le bichef. Il faut toujours coordinateur, c'est pour ça qu'il y a toujours l'aîné ou le ministère apostolique, hein. Il y a une coordination, mais le rôle de tout ministère de gouvernement, c'est d'arriver à ce que tous les autres soient mis au travail devant Dieu. En un mot, l'Église chez nous aura réussi quand nous comprendrons la richesse, non pas d'un ministère, mais la richesse de l'ensemble, de toute notre équipe, avec ses qualités, avec ses défauts. Mais vous et moi, nous pouvons nous consoler parce que nous aussi, nous avons des qualités et nous aussi, nous avons des défauts. Et alors, il y a un choix. Il y a un choix que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire rendement. Un bonhomme qui décide tout, tout le monde derrière moi, paf, colonne par deux en avant. Et sur le moment, il y a de l'efficacité, il y a même du rendement. Mais à la longue, ça ne correspond pas au désir de Dieu de démultiplier pour permettre à chacun de trouver sa vocation, son rendement, sa complémentarité, sa richesse et exprimer le talent qu'il a reçu au sein du corps de Christ. Difficile de vivre l'équipe de ministère. Difficile de vivre l'équipe. C'est simple. Si demain on vous dit, voilà, vous allez faire comme ça, imaginez que je dise, bon, c'est comme un démarrage, hein, je prends que la plupart des serviteurs d'eux, c'est moi qui étais avant eux, c'est moi qui les ai mis dans le ministère, la plupart. Hein, dans les jeunes, ben, je dirais, écoutez, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Vous pourrez. Si j'applique les normes en disant, ici, c'est moi qui commande, etc. Peut-être qu'au démarrage, comme les parents d'un enfant, pendant un temps, il faut le faire. Mais à un moment donné, il n'y a plus la soumission, il y a la communion et il y a l'amitié. Et à partir de ce moment-là, j'apprends à limiter mon indépendance, à bloquer mon individualisme et à me soumettre non plus à mon ministère, mais au ministère du corps, dans lequel il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des chrétiens, puisque chaque chrétien, n'oubliez pas, individuellement a au moins un talent, et que la vocation de Dieu, ce n'est pas un ministère. Hein. La vocation de Dieu, nous retrouvons le même appel que pour Israël, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Un peuple, pas un bonhomme, un peuple, complémentaire les uns des autres. Et comme pour les lévites, comme pour les sacrificateurs, les ministères sont donnés pour nous aider à vivre en tant que peuple. Non pas pour dire aux gens, maintenant vous obéissez au règlement qu'on va pondre, mais pour leur apprendre toujours davantage à vivre une relation avec le Seigneur lui-même. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Seigneur vous garde.